Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis, c'est le libre journal des controverses, 10h30 midi. Le créneau est là. Je salue bien entendu mon prédécesseur Nicolas Stocker. Il était présent avec notre ami Laurent Arthur Duplessis de la géopolitique, comme toujours, libre journal de géopolitique profonde. Mon prédécesseur, je les salue pour cette très belle émission. C'est le retour de Nini Vlam Virginie à la réalisation, la Steven Spielberg des réalisatrices, Nini Vlam ou Nini Glam. Pour moi, elle est plus glam que Vlam. Pour moi, t'es plus glam. Ma Nini, voilà. Donc, je te salue. Merci à toi d'être venu, comme toutes les semaines. Et je salue bien entendu Jean-Loup, c'est un nouveau Jean-Loup. Jean-Loup, il a une très très belle écriture, je le sais, donc appelez-le, bombardez le standard. Vous pouvez aussi écrire par mail à Radio Courtoisie. Aujourd'hui, un sujet important avec Madame Manon Sieratzek, avocate. Elle a écrit ce livre, L'Empire invisible aux éditions Hors Cadre, au cœur des mécanismes de l'islamisme radical. Une enquête, une longue enquête sur l'islamisme radical qui utilise visiblement des méthodes nouvelles, des méthodes invisibles, je dirais. C'est ça, chère Manon ?
Des méthodes nouvelles, on va dire non.
Pourquoi non ? Parce que...
Parce que ça fait 40 ans que ça dure, au moins.
Donc, ah, déjà depuis 40 ans.
Au moins depuis 40 ans, depuis les années 88-90, à peu près. Après, ils arrivent petit à petit et ils intègrent l'ensemble de la société civile, l'ensemble de la société française, dans tous les secteurs. Alors évidemment, d'accord, il y en a moins qu'il y a 40 ans, mais ce n'est pas un phénomène nouveau.
Non, je ne parle pas du phénomène, je parle du fait d'être un peu dans l'invisible. Parce que d'habitude, normalement, l'islamisme, on le voit, on en entend parler dans les cantines, par exemple, dans le sport. Et là, pour le coup, vous avez utilisé un angle que d'autres auteurs n'utilisent pas, c'est de dire voilà, qu'il rampe de manière sournoise, un peu comme dans les couloirs, si je puis dire.
C'est tout à fait ça. C'est de manière feutrée, invisible, dans des secteurs d'activité divers. Et donc, on ne les voit pas venir, mais finalement, petit à petit, vraiment maillon par maillon, ils arrivent à, on ne va pas dire envahir l'espace, mais prendre du pouvoir.
Donc, c'est une méthode nouvelle.
C'est une méthode nouvelle, mais en fait, cette méthode, en soi, elle n'est pas nouvelle, parce qu'ils ont toujours voulu faire ça. Ils l'ont toujours dit.
Ben, c'est dingue, parce que...
Les frères musulmans ont toujours dit, justement... nous, on veut imposer la charia sur l'ensemble des sociétés européennes, c'est connu. Florence Majoberger l'a dit, notamment, et pas qu'elle. Donc, ce n'est pas nouveau. Par contre, l'intégration dans plusieurs milieux et de plus en plus, en utilisant nos libertés fondamentales, et c'est ça le plus important, et c'est peut-être ça la nouveauté. C'est peut-être ça la nouveauté. C'est l'utilisation de notre droit pour finalement inverser les valeurs républicaines.
Comment se fait-il que vous avez pris cette angle ? Parce que personne ne l'a fait auparavant.
Parce que vous avez des sociologues, des essayistes, des anthropologues qui ont décrit une situation. Nous, on a préféré, avec Thierry Froment, qui est un ancien magistrat, prendre des témoins qui nous racontaient comment ça se passait dans leur milieu professionnel. Et à ce moment-là, on en a déduit une stratégie par secteur d'activité, la façon dont ils opéraient, ils procédaient, et puis, à ce moment-là, on propose des solutions.
Voilà, Manon...
Ah, parce que c'est plus opérationnel que, si vous voulez, juste un essai qui décrit finalement ce phénomène.
Voilà, Manon Sieratzek, avocate en binôme avec Monsieur Thierry Froment, ancien juge d'instruction. Ce binôme avocat-juge, ça fait, on va dire, tout le spectre, tout le champ, on va dire.
On a essayé de faire le champ, mais on n'a pas traité, il fait quand même 280 pages, on n'a pas traité l'université. On n'a pas traité l'infiltration des frères musulmans dans les syndicats étudiants. On n'a pas fait l'infiltration dans la haute fonction publique, ni même dans celle des entreprises, qui est énorme, qui est de plus en plus voyante. Vous voyez, donc, on a choisi un certain nombre de secteurs d'activité, le sport, l'éducation nationale, la culture, les élus, l'influence surtout sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas pu tout traiter. Ça sera peut-être un tome 2.
C'est-à-dire que ces gens-là sont autant influents ?
Ils sont influents, bien sûr. Ils deviennent de plus en plus influents. Et là, je tire la sonnette d'alarme.
Mais cette sonnette d'alarme, visiblement, elle est tirée,
rapport.
Certes, mais les pouvoirs publics, bon, ils n'ont pas l'air de l'écouter, quoi.
Alors, Bruno Retailleau a quand même sorti un rapport sur les frères musulmans. Bon, OK, il en a sorti 70 pages au lieu de sur 400. Donc, en fait, il a déclassifié une partie, mais pas l'intégralité.
Déclassifié une partie, ça, c'est une information, ça.
Bon, c'est pas d'information, vous le savez, non ?
Non, je crois pas que les auditeurs, je crois pas que le grand public savait que 400 pages ont été déclassifiées.
Oui,
pourquoi l'a-t-il déclassifié ?
77 sur 400.
Pourquoi ?
Parce qu'on a vu que ça prenait de l'ampleur, que c'était un sujet aussi politique qu'il fallait mettre en avant. Mais pour autant, j'ai pas pu interviewer le rédacteur de ce rapport. Alors évidemment, il y a une obligation de réserve. Mais donc il y a une certaine peur quand même de parler. Vous savez, les témoins, il y en a un certain nombre qu'on a anonymisés. Il y a toujours la peur de la peur parce qu'il y a des menaces. Là, j'ai Maher Manchipour où il y a une fatwa numérique qui s'est mise en place contre lui.
Alors Maher Manchipour, qui est un boxeur d'origine iranienne.
Absolument. Alors qui est un des témoins évidemment de notre livre, mais je suis aussi son avocat là depuis peu parce que il reçoit des menaces constamment.
Quel type de menace ?
Quel type de menace ? T'as intérêt à démissionner de ton poste parce qu'il travaille au ministère des Sports. Des insultes, des menaces.
Des menaces de mort, peut-être ?
Oui, enfin, pas exactement, mais en tout cas, c'est une mise en danger d'autrui.
C'est-à-dire que écrire ou parler.
On a fait un signalement, d'ailleurs.
C'est-à-dire que écrire ou parler d'islamisme conduit.
Radical, oui.
Ah, c'est radical, bien sûr.
Oui, je ne parle pas du tout. Alors là, je vais faire une petite parenthèse. Je ne parle pas du tout des musulmans. On a un chèque qui pour un islam apaisé qui a été témoin de notre livre.
Hein. Mais bon, tout ce qui est lié à l'islamisme radical vaut de la menace de mort.
Regardez Samuel Paty. Il finit par mourir. Donc il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui sont protégés. Nadel, il y a beaucoup de personnes qui sont protégées.
Justement, cher maître Sieratsek, comment avez-vous fait pour enquêter ? Combien de temps vous avez mis pour enquêter ? Quelles ont été vos méthodes d'enquête ?
On s'est servi du réseau des uns et des autres. Dans le sport, pour moi, ça a été plus facile. Dans le secteur de la culture, on a trouvé une réalisatrice, mais ça a été extrêmement dur. Elle a voulu donc témoigner à visage ouvert, mais on n'a trouvé personne d'autre. On a utilisé nos réseaux, voilà. On a mis 9 mois pour le faire, un an. Un an, on a une dizaine, douzaine de témoins. On les a interviewés, on a retranscrit. Ils ont vérifié, évidemment, le témoignage. Et puis, on l'a publié. Et puis, on en a déduit des analyses.
Et ces témoins, il y en a certains qui l'ont fait de manière anonyme.
Oui.
Ils l'ont fait vraiment parce que vraiment il y a la peur derrière, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de.
Non, puis on a interrogé un policier en fonction. On a interrogé un ancien agent des renseignements. Bon, tous ces gens-là, ils peuvent pas témoigner à visage ouvert. C'est pas possible ça.
Et entre
on les protège nous les gens. Moi, je suis avocat, je suis pas là pour les mettre comme ça dans l'arène. Hein.
Est-ce que entre avant et après l'écriture du livre, vous êtes dit, putain, je pensais pas que c'était comme ça. Ce pays, qu'il était autant gangréné.
Je savais qu'il était gangréné parce que je l'avais vu dans le sport, parce que j'ai commencé à faire un article sur la guerre informationnelle des hijabeuses. Et puis après, j'ai vu qu'effectivement, il était partout. Alors là où on m'a vraiment, où j'ai vraiment été étonnée, c'est quand j'ai vu le délégué national de l'UNI qui m'a dit que c'était gangréné au sein des CNUS, des CROUS, etc.
Comment ça, au sein du monde étudiant
énorme. C'est énorme. Dans les universités, ils prennent des places d'élus dans les conseils d'administration, des CROUS.
De quoi ? À l'UNEF, tout ça ?
L'UNEF, elle est voilée, la présidente.
Ah oui, c'est vrai.
Donc là, je parlais de l'UNI, qui me racontait, enfin, du délégué de l'UNI, qui me racontait, il n'y avait pas plus de 2 jours, la façon dont c'était gangréné dans les universités. En plus, ils reçoivent des subventions publiques. Hein. Donc, ça m'a fait froid dans le dos.
Est-ce que ces gens ont des demandes particulières, peut-être, aussi à l'université ?
Ils veulent des élus. Ils veulent 2 élus, ils veulent prendre le pouvoir et imposer leur choix. Enfin,
quand vous dites qu'ils veulent le pouvoir, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils veulent aller à l'Élysée et imposer la République islamique ?
Alors, je ne dis pas qu'ils veulent imposer la République islamique, mais en tout cas, ils veulent imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. Voilà. Et ce qui est dangereux, c'est qu'ils vont utiliser les articles de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme, de la Charte des droits fondamentaux, etc., pour la discrimination, la liberté, enfin la vie privée, par exemple, hein, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, des libertés fondamentales républicaines, pour les utiliser à leur profit et rentrer comme ça dans la société. C'est comme ça qu'ils obtiennent d'ailleurs des subventions pour leurs associations. C'est une méthode douce. Ils s'ancrent dans nos libertés, dans notre droit, pour le détourner à leur profit. C'est pour ça que c'est insidieux. C'est pas un combat frontal de djihadistes, là. Hein. Ça veut pas dire que ça va pas y mener. Mais leur technique, c'est celle-là. Et ils profitent des défaillances de notre état de droit.
Des défaillances ou, on va dire, du fait que nombre d'élus, par exemple, ou nombre d'hommes et femmes politiques, détournent un peu les yeux. Parce que on sait, vous avez été conseiller régional en Seine-Saint-Denis, et j'imagine que vous avez pu voir des nombres d'élus de Seine-Saint-Denis, de droite, dit de droite, qui, bien entendu, pour des élections, flirtaient avec ces gens-là.
Alors, je vais citer personne.
Non, on cite personne,
parce que je
ne
veux
bien
pas
entendu.
Être attaqué pour diffamation, on ne va pas commencer comme ça. Mais effectivement.
Et vous pouvez, si vous le souhaitez.
Oui, j'ai bien compris dans quel chemin vous alliez.
Oui, je suis un méchant garçon.
Donc, il y a des élus de droite, effectivement, qui font du clientélisme, qui laissent, les gens s'installer, qui laissent les salles de prière, qui laissent les mosquées, ils vont chercher les votes. Donc, ils laissent faire. Mais il y a plus à gauche qu'à droite, on va le dire. Hein. À Bagnolet, il y a Marie-Laure Brossier dans mon livre, qui était une élue, élue municipale, élue avec un socialiste, d'ailleurs. Hein. Tony Di Martino, de toute façon, il est cité dans le livre, donc je ne prends aucun risque.
Allez-y.
Qui a vu des petites filles voilées, de 7 à 9 ans, rentrer dans un bâtiment accompagnées de barbus, dans une école, on ne sait même pas où elles allaient. Enfin, je veux dire, le maire, il est obligé d'être au courant. Et puis ça ne s'est pas passé clair. À Évry aussi, il y a une avocate qui m'a raconté, Najouat
Haïté,
à Évry, c'est pareil. Alors, il y a quelques années, en 2008, elle nous l'a dit, mais ça continue.
Mais moi,
des lieux qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il y a tout un système d'éducation scolaire parallèle qui se met en place depuis quand même un certain nombre d'années.
Mais quand Philippe Devilliers en parle, que c'est caché, etc., il disait pas des bêtises. Pourtant, les gens se sont moqués de lui. Enfin, je parle des gens des
caché.
Médias.
Alors, il faut être infiltré pour aller savoir où sont les salles de prière, où sont les salles de classe, ce qu'ils font vraiment. Et puis, je vous rappelle qu'à Montauban, j'ai interrogé, il a témoigné à visage ouvert, un adjoint au sport, qui est un ancien gendarme, M. Catala, et lui qui a fait fermer un club de sport. Je crois que c'est un club de sport de boxe, à Montauban, parce qu'il y a une des mères qui avait dit mon fils, en fait, c'est de la charia qu'on lui enseigne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce n'est pas du tout ça, ce à quoi on s'attendait.
Mais
elle a eu le courage de venir voir l'adjoint du maire.
Mais c'est vrai que dans le sport...
Et la préfète était un peu réticente. Hein. C'est grâce à son courage et à la mairie de Montauban que ça a été fermé. Hein.
Mais c'est vrai que ça a commencé déjà
dans
le sport. C'est un contre-exemple.
Ah non, mais le sport, c'est une catastrophe.
Prenons exemple de, à l'époque, l'équipe de France de 2010, celle qui n'est pas descendue du bus, où on parlait que Ribéry et ses amis exigeaient de la nourriture halal, par exemple, où dorénavant, les joueurs de football, les jeunes, chez les jeunes, voulait avoir des endroits privatifs parce que quand on est un garçon, quand on fait du foot dans les douches, tout le monde est pareil, on va dire, mais eux ils voulaient avoir des endroits privatifs, etc. Le sport, déjà, lui, il est complètement pris en main.
Il y a des fédérations qui sont beaucoup plus prises en main que d'autres.
Le football, c'est fini, on va dire.
La Fédération française de football lutte contre ça. Elle interdit dans ses statuts le port de signes ostentatoires religieux. Et elle lutte contre ça. Alors qu'il y a d'autres fédérations qui sont plus molles.
Ben, ça, c'est surprenant, justement. Dites-nous lesquelles, parce que là, j'étais quand même assez surpris. Moi, je pensais que c'était surtout dans le football.
Il y en a, on va pas sur... si vous voulez, dans les vestiaires, on ne sait pas ce qui se passe.
Bien sûr.
Et je vais vous dire, Patrick Karam, qui est président, vice-président de la région.
Que je salue, mon Patrick.
Patrick Karam, alors lui, il est. D'abord, il a fait la charte de laïcité, bon. Et puis, il surveille. Il surveille. Alors, je ne dis pas qu'il se rend dans tous les gymnases, dans tous les vestiaires, mais en tout cas, dès qu'il a une information, il coupe les subventions. Et je vais vous dire, il faut les prendre comme ça, les gens. Il faut les couper à la base. C'est-à-dire, il faut économiquement arrêter, vous voyez, faire cesser le vivre qui leur permet de vivre, en fait. L'argent. C'est l'argent, hein, le point de départ. Hein. C'est le financement, le point de départ, en fait. Si vous arrêtez le financement, vous arrêtez tout ça. Hein.
Mais est-ce qu'on sait combien les subventions publiques financent ces gens ? Non, on a un chiffre.
Ça, il faut aller regarder dans toutes les collectivités locales. Alors en France, collectivités locales, ce qu'elles financent, qui elles financent et qui est derrière. Donc ça sera l'objet d'un autre tome sur le financement des réseaux islamistes par des subventions publiques. Et en Europe, c'est énorme. Subvention énorme pour les programmes Erasmus, islamophobie... etc. Ça, on l'a vu. Hein. Et puis, venant de l'étranger. On sait très bien qu'il y a des financements étrangers en cette année.
Du Qatar, d'Arabie Saoudite.
De la Turquie, qui vient de plus en plus, voilà, par exemple. Et de l'Arabie Saoudite, probablement. Après, c'est difficile de retracer le financement.
Mais qu'est-ce qui fait que l'État laisse faire ? C'est quoi ? C'est que électoral ?
Alors, je crois que, d'abord, c'est électoral, effectivement. Et puis, il y a des accords probablement avec les États étrangers. Probablement. Parce que ça se sait, si vous voulez. Tout le monde en parle, des vrais musulmans. Je veux dire, c'est pas nouveau. Voilà. Donc, la DGSI, elle va pas contrôler la veille sur les réseaux sociaux, mais elle contrôle les attentats.
Mais ça démontre la République française est quand même très hypocrite. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le rapport Retailleau. Voilà, qui dit ce qu'il dit.
Il a fait ce qu'il a pu. Hein.
Non, mais d'accord. Mais il dit ce qu'il dit, pourtant.
Pourtant, il était courageux là-dessus. Hein.
Oui, peut-être il a été très courageux. Mais en tout cas, ça n'a pas empêché les financements.
Non, mais il ne peut pas empêcher, par exemple.
Oui, mais ça, si ça vient d'un État étranger, vous me dites qu'il y a des accords.
Non, mais je dis qu'il y a forcément des accords diplomatiques au-delà de ça. Probablement. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des mosquées qui sont financées par le Qatar. D'accord ? Et d'ailleurs, en Seine-Saint-Denis, il y a des maires qui ont été approchés pour dire « Bon, écoutez, vous nous laissez un peu la mosquée, etc. et on va financer nous-mêmes. » Donc, on sait très bien qu'il y a des pays étrangers qui essaient d'entrer. Après, je ne peux pas vous dire le montant. Voilà. Mais il y a des maires qui résistent, quoi que vous en pensiez. Il y a des maires de droite qui résistent. Et probablement des maires de gauche. On ne peut pas être.
Non, mais évidemment qu'il y en a qui résistent. Mais vous savez très bien que c'est une infime minorité. Moi, j'en connais un. C'est mon avis. Hein. Il est de Drancy. Lui, il ne résiste pas beaucoup. Faut dire les choses.
Il a gagné au premier tour.
Hein ?
Oui,
voilà, donc voilà, je le connais depuis 25 ans. Je sais qu'il ne résiste pas beaucoup. Hein. Je sais que,
parce qu'il a besoin de cette communauté. Bon, je ne vais pas faire la liste des maires de la Seine-Saint-Denis qui ne résistent pas. Hein.
Ben voilà. Donc, ça reste.
Je peux pas les citer.
Ça reste très minoritaire. Parce qu'on sait que tous ces types, ils sont malins. Ils ont compris qu'avec les lois de la République et avec la démocratie, ils peuvent faire tomber le système. Et ils savent aussi qu'on a des élus qui, bon, s'ils n'étaient pas élus, surtout celui de Drancy, s'il et lui n'étaient pas élus, à part pousser des chariots, je ne sais pas ce qu'ils feraient dans la vie. Faut dire
alors
les
ça,
choses.
Ça, je vous laisse le commentaire.
Oui, c'est moi. Ce sont mes commentaires, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, vous. Hein. Vous ne pensez pas ça du maire de Drancy. Mais.
J'ai aucune.
Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, s'ils n'ont pas ça, s'ils n'ont pas l'argent public, s'ils ne réussissent pas en tant que maire et tout, ils ne réussiraient pas. Et donc, ils savent très bien aussi que, parce que je me rappelle que Drancy était communiste avant, que la ville est tombée du communisme à l'UDF et qu'il y a eu besoin de cette armée de votants. Bon. Et donc, la collectivité locale, je connais très bien parce que j'étais attaché parlementaire au Sénat et donc je connais très très bien pour le coup la collectivité locale et je sais très bien comment les uns et les autres demandent des choses. À l'époque au Sénat en plus, on donnait les enveloppes parlementaires, etc. Je sais comment très bien comment ça se passe, comment on achète des voix. Voilà. Et pour, par contre, ça, c'était quelque chose de communiste. Non, d'accord, de communiste
c'est
et socialiste.
Non, mais LFI, c'est ce qu'ils vont.
Ben oui, c'est ça. Bon. Aussi.
Ok, donc ils passent par derrière vous. Et puis, voilà, on sait très bien. D'abord, on sait très bien que ce sont des alliés des islamistes. Hein. Ils se servent mutuellement d'eux, les uns des autres. Pour, en fait, ils ont un même objectif, sauf que c'est les islamistes qui prendront le pas, à mon avis, sur LFI.
Vous savez, moi, à l'époque, j'avais vu aussi des listes liées à une mosquée du coin, par exemple, qui se présentaient déjà aux élections.
Oui, mais ça n'a fait qu'empirer. Il y a eu le 95, par exemple, il y a eu Goussainville bon, en 2020, et puis là, il vient d'y avoir Sarcelles. Le 95, petit à petit, alors il y en a, j'ai repéré deux villes. Mais ça va prendre de plus en plus.
Mais comment expliquer que l'État laisse justement faire...
Parce qu'ils ne vont pas se présenter comme islamistes.
Non mais d'accord.
Vous voyez ce que je veux dire ? Ils s'intègrent par LFI, par un parti républicain. Enfin, je veux dire, ils sont élus, ils ont le droit d'être élus. Et donc, dans la liste, il y a des islamistes. C'est
oui,
comme ils se cachent.
Oui, mais regardez... Normalement, un élu de la République n'a pas le droit de se présenter voilé en conseil municipal.
Ah ben ça, c'est inadmissible.
Bon. Ça s'est fait avec M. Bali Bakayoko. Bon, ça a été des images publiques, pourtant aucune réaction de l'État.
Oui, non, c'est vrai.
Ben voilà. Donc,
c'est vrai. Bah, si, il y a une proposition de loi par le RN qui a demandé que l'interdiction...
Mais c'est pas l'État, le RN.
Non, mais bien sûr, c'est un parti politique.
Voilà.
Non, mais il laisse faire, on le sait.
Donc,
on sait
voilà,
qu'il laisse
donc
faire.
Il laisse faire.
Mais bien sûr qu'il laisse faire. Il laisse faire, sinon on n'en serait pas là.
Non, mais est-ce que quoi ? Est-ce qu'il y a une volonté de l'État de maintenir une paix sociale ?
Ben, probablement.
Aussi, est-ce que...
C'est voilà. La révolution, si vous avez la guerre civile demain.
Ah, c'est ça. C'est cette crainte de guerre civile.
C'est peut-être pas une guerre civile, j'exagère. Mais si vous voulez, l'État, vous voyez bien qu'il y a des enjeux politiques aussi. Donc, ils veulent préserver un peu tout ça. Et donc, ils interviennent petit à petit, un petit peu dans certains domaines, mais pas trop. Il n'y a pas eu de révolution, quoi.
Quels sont les domaines où ils ont justement le plus avancé ?
Ils avancent partout. Le sport. Je prends le sport. Dans le handball, par exemple, dans l'haltérophilie.
L'haltérophilie aussi.
La boxe, c'est la pire. La boxe, la lutte, le grappling. Les femmes jouent en hijab. Elles s'entraînent en hijab, ok, mais elles jouent des championnats en hijab. Moi, j'ai des recours devant le tribunal administratif où elles communiquent en hijab sur leurs réseaux sociaux. En haltérophilie, Sylvie Berena, voilà, elle a mis son hijab, elle est très fière de présenter son hijab, elle est, voilà, elle a été championne de France. Ou championne, voilà, régionale, peu importe. Et donc, si vous voulez, le sport prend beaucoup. Et là où il y a un problème de l'État, c'est que ce sont les fédérations qui, dans leur statut, prévoient ou prévoient pas. Normalement, elles ne devraient pas prévoir. Hein. Et puis, elles doivent intervenir. Vous n'avez pas le droit de mettre un hijab dans une compétition, peu importe. Vous ne vous entraînez pas avec un hijab. Ah oui, c'est l'espace public, mais vous représentez la France. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Il faut pas. Si vous voulez, à chaque fois que vous voyez une scène qui ne devrait pas exister, il faut faire un recours juridique. Tant pis, faut faire comme eux. Ils entrent. De toute façon, il y a un djihad judiciaire. Hein. À chaque fois, ils font des recours. Ils ont un panel d'avocats là, qui sont là toujours pour dire bah oui, ils sont islamophobes, ils sont racistes, etc. Ils n'arrêtent pas. Ils vous envahissent de recours. Bah, nous aussi, il faut les envahir de recours.
Oui, mais les recours, ça coûte cher.
Oui,
j'imagine.
Les recours, il faut une équipe d'avocats.
Est-ce que les fédérations françaises ont les moyens de faire des recours
Non, mais les fédérations, si vous voulez, elles abritent leurs clubs. C'est les clubs qui admettent ça.
C'est surtout les clubs.
Ah oui, c'est les clubs.
Pourquoi ils admettent?
La fédération ne l'admet
pas. Parce qu'ils ont quoi?
C'est les clubs. Le club de rugby, par exemple, ouais. Pardon de parler de rugby, de Saint-Denis, a fait paraître un communiqué de presse, je ne sais pas, il y a quelques mois, en disant, ben non, le hijab, c'est ça le principe de la laïcité, vous vous rendez compte un peu? Cette inversion, non, mais il y a vraiment eu un communiqué de presse qui disait ça. Non seulement c'est la liberté de porter le voile, c'est une liberté fondamentale, on a le droit de porter un vêtement comme on veut finalement. On a le droit de concourir avec un vêtement, d'accord ? Et en plus, c'est ça la laïcité. C'est ça qu'ils disent. Ah, j'ai coupé le souffle là.
Oui, parce qu'ils arrivent.
Et la fédération n'a rien dit.
Ils détournent justement la loi de 1905
oui,
à leur profit.
Oui, mais bien sûr, mais pas que.
Mais est-ce que la loi de 1905, elle est claire?
Ben oui, la loi de 1905, elle est claire. Elle sépare l'État de l'Église,
oui, mais
etc.
Est-ce qu'elle
elle dit, vous exercez votre, oui, mais votre culte. Voilà.
Oui, mais est-ce qu'elle le dit dans le sport, par exemple?
Ah non, elle ne le dit pas dans le sport. Dans le
donc
sport,
c'est pas
vous
clair.
Avez le code du sport, vous avez les règlements des fédérations, vous avez les statuts des fédérations, vous avez le contrat républicain avec la loi sur le séparatisme de 2021, qui est très clair. Et là, vous avez Nunez qui porte une loi qui va arriver fin avril, probablement, sur le renforcement de la loi séparatisme de 2021, qui va protéger un peu plus les mineurs. Heureusement, d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas parlé des foyers de mineurs isolés aussi. Hein.
Ben, on va en parler, mais vous savez, la loi séparatisme de M. Darmanin, d'abord.
De Darmanin, c'était.
Et qui était une erreur, je vous le dis. Ah. Pourquoi? Parce que. Vous savez pourquoi? Parce que vous pouvez aujourd'hui pas faire, par exemple, l'école à la maison. Bah oui. Vous êtes monsieur Dupont-Durand ou monsieur Benhamou ou Lévy, j'en connais, qui ne peuvent pas faire l'école à la maison, vraiment, hein, du fait de cette loi séparatiste, parce que le problème, c'est que l'État a englobé tout le monde dedans. Sur la loi séparatiste, par exemple, il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants aillent à l'école publique ou même privé sous contrat, parce qu'on y apprend l'éducation sexuelle. Et à juste titre, je comprends. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas faire l'école à la maison comme avant. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire l'école à la maison, mais dorénavant, il faut demander la permission, je ne sais pas quoi. Et donc, de ce fait-là, alors peut-être qu'un amendement s'impose là-dessus. En tout cas, ça empêche nombre de parents qui ne sont pas des islamistes d'avoir...
Oui, bien sûr.
C'est une réalité. Bon. Mais revenons sur votre livre. Moi, j'ai beaucoup aimé votre livre. D'ailleurs, il se lit très bien. Vous avez très bien écrit. D'habitude, des essais, bon, c'est pas excessivement
c'est
bien
pas
écrit.
Mais
là, oui, là, c'est des témoignages. Mais c'est assez bien écrit pour le coup. Parce que je trouve que vous êtes allé quand même, malgré tout, en profondeur d'un sujet où je trouve qu'il y a beaucoup de constats. Et vous, malgré tout, vous êtes allé sur un angle d'abord différent. Première des choses. Et deuxième des choses, il y a quand même de la proposition. Et il faut, je pense, dorénavant dans ce pays, des propositions. Quoi. Les constats, alors, ça va. On a compris.
Oui, enfin, les constats, ça va. C'est pour ça qu'on a voulu faire un livre différent. On n'est pas sociologue, encore une fois. Et nous, on est sur le terrain juridique. Et quand on voit qu'il y a le djihad du judiciaire, ben on se dit, ben, faudrait quand même qu'on réagisse. Il y a ça, et puis il y a la guerre informationnelle. Je veux dire, il y a tous les blogs des islamistes, il y a tout inter... Enfin,
il y a TikTok.
Non, mais TikTok, c'est...
TikTok, c'est devenu un réseau social d'islamistes, pour dire
sûr.
Les choses.
Non, mais on le dit. Enfin, je veux dire, on a tout un chapitre sur l'influence.
Oui, mais vous le dites.
On le dit, il y a la mode fashion ou...
Mais moi, je vais vous dire une chose.
Il y a de l'influence culturelle.
Les gens qui nous écoutent, ouais. Qui nous regardent, ne connaissent pas TikTok. Moi je le vois parce que j'ai eu nombre d'influenceurs et de gens qui y travaillent, et c'est un monde qui est étranger aux adultes, parce que TikTok c'est vraiment le réseau social des adolescents, tous y sont, il y a aussi Snapchat que les adultes connaissent très très peu, et pour le coup vous en parlez, et ça c'est important, et il faut faire et il faut vraiment faire là-dessus de la pédagogie, parce qu'on a l'impression que les adultes, même de ma génération, avec leurs enfants, parce que les enfants sont excessivement embrigadés justement avec cette mode, parce que beaucoup de filles influenceuses parlent de cette mode du hijab, voilà. Et du coup, parce que...
Ça s'appelle le soft power. Hein.
Ben voilà, donc qu'est-ce que devrait... Comment est-ce que des parents qui nous écoutent peuvent justement... comprendre et peut-être contrôler même sur ce que regardent leurs enfants. Parce que c'est de là que ça commence. Parce que eux, là où, c'est quand même, où ils sont quand même assez vicieux, c'est qu'ils s'attaquent justement
15-24.
À des, voilà, aux 15-24 qui n'ont peut-être pas intellectuellement, on va dire, le bagage pour lutter contre.
Oui, alors il y a tout le phénomène, vous l'avez très bien dit, il y a tout le phénomène de mode, du mode style qui est en fait fashion, enfin le fashion style, où on voit des influenceuses qui sont payées, probablement, qui font du commercial, qui vendent des produits, mais en même temps qui inculquent une culture religieuse. Enfin, en disant, mais non, mais le hijab, le voile, c'est quand même bien, regarde comme c'est joli, regarde. avec un joli rouge à lèvres, ça me va bien. Enfin voilà, il y en a plein. Et Mariam, j'en ai cité une dizaine, moi, dans mon livre, hein, de influenceuses sur TikTok. Et on voit que ça marche. Et il y a ça, et il y a aussi des marques qui ont compris que c'était un marché commercial énorme. C'est-à-dire que Nike l'a compris, Decathlon bon, a été arrêté, mais l'avait compris, Adidas l'a compris, puisqu'ils font des hijabs en entier. Et évidemment, tout ça, ça influence les jeunes. Mais c'est eux qu'il faut protéger. Alors, vous me disiez comment on fait. On ne peut pas interdire les réseaux sociaux aux enfants. Ce qu'on veut faire, c'est de la contre-influence. C'est faire autant
C'est-à-dire
que... C'est de lancer des messages qui ne sont pas leurs messages. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de, de réseau massif qui font la promotion sur les réseaux sociaux. Mais nous, il faut qu'on fasse un contre-encerclement cognitif. Christian Arbulot, qui est directeur de l'EGE, enfin de l'École de guerre économique, vous le direz. C'est-à-dire qu'il faut contrer ces messages. Évidemment, ça demande des moyens. Et c'est ce que l'État doit mettre en place.
Ça devrait être fait par l'État ?
D'après ou alors
vous,
des agences, ou alors des équipes, voilà.
Mais parce que, oui, mais le problème, c'est que le capitalisme...
Et attention aux algorithmes, hein, parce que aussi...
Oui, mais le problème, c'est que le capitalisme, il cherche des marchés partout. Si le capitalisme voit un marché lié au hijab, il va s'y engouffrer. Hein.
C'est ce qu'ils font déjà. Uniqlo, c'est ce qu'ils font déjà. Il y a des grandes marques fashion qui sont déjà sur le marché, qui ont compris qu'il y avait de l'argent à faire. Alors, vous allez vous opposer, effectivement, aux intérêts économiques. Bon, et alors ? C'est notre jeunesse avant tout, non ? Parce que je vous rappelle que le sondage de novembre 2025, c'est 57% des jeunes filles, des jeunes, disent que les lois de la République, finalement, ça s'applique après la charia, ou les pratiques religieuses. Des jeunes entre 15 et 24 ans. Alors, vous vous rendez compte un peu où on en est ?
C'est-à-dire la charia...
Ou les lois de la République,
c'est-à-dire
finalement...
Qu'est-ce qu'elles imposeraient exactement, sur les lois de la charia ?
Alors, elles imposeraient le port du voile, manger halal, aller à la mosquée, et puis inculquer les valeurs de la charia, qui ne sont pas nos valeurs. Nous, on est une démocratie avec des valeurs républicaines. Voilà, on ne fait pas de prosélytisme. Et eux, ils font du prosélytisme. Donc, ils veulent séparer les musulmans du reste de la population. Il y a une idée politique derrière. C'est-à-dire qu'ils se disent, non, les musulmans doivent être de notre côté et pas de le leur. Donc, il y a toute une propagande qui vise à séparer la population. Alors qu'il y a des gens très, très, très intégrés. Il y a des musulmans, c'est plus des victimes qu'autre chose. Hein.
Mais est-ce que ces islamistes, ils ne travaillent pas pour eux, que pour eux, j'imagine. Est-ce qu'ils travaillent aussi pour des pays étrangers ?
Et peut-être,
est-ce qu'ils pourraient peut-être même influencer sur la politique française ?
C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
En faveur de pays étrangers ?
Bien sûr, c'est ce que je vous ai dit. L'idée, c'est que les musulmans aujourd'hui, même modérés, doivent devenir plus religieux et doivent se séparer du reste de la population.
Oui, mais ça c'est une chose. Mais je veux dire, est-ce que, par exemple, ils pourraient influencer l'État français de telle manière que l'État français, je ne sais pas moi, ferait des lois en faveur du Qatar ou alors des ventes de je ne sais pas quoi, du commerce, choses comme ça.
Non.
Est-ce que ça irait jusque-là ?
Non. Non, c'est de l'influence douce. Ça, vous laissez faire, vous laissez des listes, vous laissez des élus intégrer même le Sénat, mais vous ne faites pas de loi contre ce dont vous avez parlé, non.
Mais ça ne pourrait pas arriver dans 15, 20, 30 ans c'est ça le truc. Il ne faut pas penser à un an, deux ans, il faut penser à 15, 20, 30 ans.
Mais c'est pour ça que je vous parle de la jeunesse. Les gens qui ont 15 ans aujourd'hui, à 30 ans, je ne sais pas ce qu'ils deviendront, hein. Ils seront peut-être en niqab. Hein.
C'est sûr qu'on en voit d'ailleurs de plus en plus.
Vous allez dans les grandes métropoles, vous en voyez, et même dans les espaces ruraux. Hein.
Et d'ailleurs, tiens, il y avait la loi de M. Copé de 2010, qui du coup a été détournée. A été détournée depuis la crise sanitaire.
Sur le burqa.
Oui, parce que je remarque, moi j'habite Saint-Ouen, je remarque que dorénavant, les femmes ont détourné la loi en portant des masques de FFP1, P2, etc. Et donc, du coup, cache le visage.
Oui, mais enfin, c'est pas une burqa.
Si, avec par-dessus une burqa. Par-dessus un voile, je sais pas moi, comme par-dessus
voile intégral, un voile, voilà. Parce qu'il y a plusieurs types. Hein.
C'est-à-dire qu'une sorte de voile intégral, mais sans, vous voyez,
parce qu'il est interdit que sans, de cacher le visage, sans, oui, mais, c'est ça la loi.
Oui, mais sans le tissu devant, mais à la place,
ah oui,
utilise...
Ah il y a un détournement, oui.
Voilà, il y a un détournement de cette loi.
Oui, mais alors là, le problème, c'est que le Covid étant peut-être encore là, bon, là, c'est compliqué. Parce qu'elles vont vous dire, ah bah oui, mais c'est une règle d'hygiène et sécurité.
C'est ce que je
vous
dis, c'est ce que je vous dis, ça a été détourné en fait.
Oui, ça a été détourné, c'est comme ça qu'ils font.
Ça a été détourné.
Depuis le début, c'est comme ça qu'ils font.
Mais c'est quand même, enfin, on a l'impression, en lisant votre livre, et à juste titre, qu'on a affaire à un état dans l'état. Alors, quasiment, hein.
Alors, on ne peut pas les compter, hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous ne savez pas combien ils sont. Vous êtes incapable de me donner un nombre qui sont prêches. Alors, il y a les frères musulmans, puis il y a tous ceux qui font allégeance aux frères musulmans. Donc, Florence Berger-Bleca pourrait peut-être vous donner chiffre plus précis.
Mais même les renseignements ne peuvent pas savoir, ne comptent pas.
Bah, probablement qu'ils le... Je ne sais pas s'ils comptent. En tout cas, ils empêchent les attentats. Hein. C'est déjà ça.
Mais vous avez pu en voir
non.
En off?
Non, ils ne pouvaient pas.
Pourquoi? Vous avez essayé?
On a essayé.
Et qu'est-ce qu'ils vous disaient?
On ne peut pas répondre. Et ils ne voulaient pas nous voir.
C'est
dommage. Ce qui est logique, parce que les agents de renseignement ne sont pas là pour donner du renseignement. Ils ont un secret défense, ils ne peuvent pas donner un renseignement. Et même un ancien du renseignement nous a donné quelques éléments, mais pas de la DGSI, mais c'est très très difficile d'avoir des éléments.
Il y a Omerta, quoi.
Il y a Omerta, puis c'est leur... Enfin, je veux dire, ils ne vont pas dévoiler leur méthode de travail.
Non, mais ils peuvent...
J'ai vu quelqu'un, c'est un ancien de la DGSE, il n'a pas voulu nous parler.
Non, mais...
Ils ne peuvent pas parler, en fait.
Oui, enfin, oui et non. Parce que des gens de la DGSE ou d'anciens, ce qu'on appelait à l'époque RG, etc., en off, disent des choses.
Oui, ils disent des choses.
Voilà.
C'est très difficile
Mais là, ils n'ont pas voulu vous les dire.
Non, enfin, il y a quand même un ancien, enfin, quelqu'un du renseignement qui nous a dit certaines choses.
Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Qui est anonyme.
Ah. Vous pouvez pas en parler ?
Bah, c'est dans mon livre. Il nous a dit que ça datait de 95, qu'on faisait rien, que voilà, qu'il y avait des insuffisances de l'État et que finalement on laissait faire. Enfin, là, je vous le résume, hein, mais.
Mais c'est pas surprenant. Enfin, parfois même, je me demande.
Regardez le cas de Samuel Paty.
Ah oui. Mais
Samuel... Samuel Paty, c'est quand même un cas d'école.
Mais oui, mais regardez.
Regardez la lâcheté
Paty,
des institutions.
Oui, oui. La lâcheté de l'éducation nationale aussi.
De l'éducation nationale, des collègues. Et puis, des supérieurs hiérarchiques du système de l'éducation nationale. D'ailleurs, je n'ai pas pu obtenir. Une personne de l'éducation nationale, enfin à part l'ancien recteur, M. Carrero.
Mais tout ça a commencé déjà avec les années SOS racisme, avec M. Julien Drey.
Oui, mais Julien Drey, il n'a pas voulu installer l'islamisme dans les quartiers, c'est pas vrai.
Non,
c'est
mais il a ouvert la boîte de Pandore.
Oui, mais au départ, c'était pas ça, SOS racisme. C'est eux qui... Ça s'est développé de cette façon.
Oui,
mais c'est pas Julien Drey qui est responsable
un peu si, je suis désolé.
Parce qu'il est contre l'islamisme, lui.
Non, oui. Quand il apporte le droit à la différence,
oui,
il ouvre la boîte de Pandore.
Oui, mais
ils
l'ont utilisé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Mais il est malin, parce Julien Drey, moi je le connais un peu, il n'est pas bête. Il sait très bien que, in fine, dans 10, 15, 20 ans, 30 ans après, il allait installer ça. Il le sait, il savait très bien que les conséquences des SOS racisme, ce serait ça à la fin. C'est pas, il est hypocrite. Mais
non, en tout cas, il se rend bien compte
mais
que le
Julien Drey
est
dans l'Essonne et il a flirtouillé avec tout ça.
Peut-être, je ne
mais
sais
c'est
pas.
C'est pas peut-être, c'est sûr. C'est
toute l'Île-de-France.
C'est évident. Mais c'est évident.
Mais pas que l'Île-de-France.
Mais pas que l'Île-de-France, dorénavant. Et ça,
c'est partout.
Et c'est là, voilà. Justement, il faut dire aux gens.
Il y a le syndicat des Grenobloises, l'Alliance citoyenne des Grenobloises, qui ont voulu imposer, il n'y a pas si longtemps que ça, une tenue vestimentaire propre à l'islamisme dans les salles de sport. Ou même dans les piscines, avec le burkini. Heureusement que le Conseil d'État a dit non. Mais le maire avait autorisé à porter le burkini à Grenoble. Et c'est bien un syndicat Alliance citoyenne de Grenoble. Ils l'ont fait à Lyon aussi. Donc, il n'y a pas qu'à Paris.
Bon, mais il y a hormis...
À Rennes, y a, vous avez le burkini dans les piscines.
Mais hormis les burkinis, toutes ces choses, ouais, il, y a aussi, mère, il y a aussi, par exemple, cette fameuse finance islamique. Où là, pour le coup, là, on a le côté économique.
Ah, bien sûr. Bah, le marché halal, alors, le marché halal, puis pas que. Il y a des livres qui sont distribués dans des librairies où on nous dit, ah bah oui, de toute façon, on peut battre sa femme. Hein.
On peut battre sa femme?
Bah oui, modérément, mais on peut battre sa femme. Enfin, je veux dire, l'autre fois, on a été avec Thierry Froment à l'association Agir Ensemble, et il y a le président nous a dit, bah regardez le livre qu'on a. Alors, je ne me rappelle plus de l'éditeur, mais il y avait un livre qui était vendu sur Internet et où on avait les principes de la charia, dont l'autorisation de battre une femme. C'est hallucinant. Donc, il faut attaquer tout de suite l'éditeur, évidemment.
Mais tout ça...
C'est un exemple. Il y en a des milliers d'exemples comme ça. On peut y passer 20 ans. Hein.
Est-ce qu'aller au tribunal, ça suffit? Parce que j'imagine que ça prend du temps, tout
ça.
Ah
bah oui, le tribunal, ça a toujours pris du temps.
Oui, mais
sauf les déférés préfectoraux.
Oui, mais il y a besoin de décisions rapides et pas des décisions sur 5 ans, 10 ans.
Oui, mais décisions rapides, il n'y en a pas en politique, ou alors il faut qu'elles soient drastiques, ou alors il faut installer un nouveau gouvernement, parce que ce n'est pas avec le gouvernement actuel qu'on va arriver à faire des choses. On n'arrive même pas à faire passer une loi sur l'interdiction des signes religieux. Elle est toujours à l'Assemblée nationale, elle attend. Hein. Et elle n'est même pas, à l'agenda. Oui, vous vous rendez compte, depuis 2024, oui, c'est ça. Ou
ah 2025. Bah tiens, des commentaires arrivent, Jean-Loup est là. Allez, Jean-Loup.
Des commentaires, oh là, beaucoup.
Allez. Bonjour, je vous rappelle qu'il y a des Françaises de souche qui portent le hijab. Pour moi, c'est incontestable. C'est vrai. Des Françaises.
Elles ont adopté leur religion musulmane.
Ah tiens, merci pour cette émission très intéressante. Et en vous écoutant, la France s'est foutue et la seule solution serait une guerre.
Non, il faut se battre.
Il faut se battre.
Il faut bien sûr. On va pas laisser le combat se terminer comme ça. Non, il faut que la laïcité reprenne le chemin de la laïcité, point. Il faut se battre.
Revenons aux fondamentaux. La France s'appelle la France parce qu'elle a été conquise par les Francs qui étaient d'origine germanique, d'où les yeux bleus, voilà, ok. Une proposition pour lutter contre l'islamisme posait la question aux élus RN du retour au droit du sang au lieu de droit du sol. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a quand même 500 000 immigrés par an qui viennent en France, depuis Macron. Ça fait donc 9 ans qu'il est là, ça fait 450 000. Comment empêcher...
Et très peu de retour, en fait.
Comment l'empêcher, du coup, cet islamisme?
Il faut évoluer sur l'immigration en disant, on arrête.
Parce qu'entre les 450 000 par an, enfin 500 000 par an, pardon, ça fait donc 4,5 millions, plus tous ceux depuis les années 80.
C'est le droit d'asile, c'est qui? En fait, parce que vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même sac, là.
Oui, mais vous savez, on n'a pas le droit...
C'est les étudiants qui viennent, étrangers, c'est qui?
Oui, mais
c'est
on sait très bien que...
Non, vient
mais...
partout.
Oui, bien sûr. Mais les étudiants étrangers, on sait que tout ça...
C'est des agents étrangers, peut-être. Je ne sais pas, vous
non,
savez
mais,
pas.
Non, mais on sait... Oui, mais vous savez très bien que les étudiants étrangers, pour la plupart, ils ont d'étudiants que le nom. C'est une façon aussi pour s'installer. On a... ceux qui travaillent, bien entendu, mais après leurs familles qui viennent, entre aussi les clandestins. On ne sait pas combien de clandestins il y a en France. Et puis j'invite aussi les gens à aller dans le nord de Paris. Moi, j'ai fait quelques reportages à Colline du Crac, Aubervilliers, La Chapelle, etc. À venir dans des départements d'Île-de-France, à l'étranger aussi, tiens. En province, dans le Languedoc-Roussillon, enfin partout, hein, dans le PACA, où vous voulez. Je vais dire.
Ils sont pas tous islamistes. Hein.
Non, ils sont pas tous islamistes.
Faut faire attention à pas tout mélanger. C'est pas parce que vous avez 400 000 mecs qui arrivent que c'est 400 000 islamistes qui vont faire de l'influence.
Non, mais c'est.
Pardon, hein, mais.
Non, mais c'est pas que des islamistes. Mais vous comprenez bien que plus des gens arrivent sur un sol, et plus l'islamisme sera présent. Oui ou non?
Oui, ben on a vu ça avec les Afghans hein, aussi.
Ben voilà. Donc, évidemment, si vous laissez rentrer nombre de personnes, eh bien, vous aurez forcément de l'islamisme conquérant.
Eh ben, il faut contrôler. Il faut beaucoup plus contrôler ou limiter ou arrêter.
Oui, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas contrôler oui, parce que Frontex, par exemple, c'est 70 millions d'euros de budget par an. Le Frontex américain, c'est 15 milliards de dollars.
Oui, non, mais...
Déjà, le différentiel.
Bien sûr.
Vous voyez.
Bien sûr.
Ensuite, voilà, vous avez ces élus dont vous avez parlé, qui sont complaisants. Et puis, vous avez... et ça, c'est le problème de la République, c'est que on donne les papiers, la nationalité très vite,
oui,
très facilement.
Rapidement. Oui, oui, très rapidement.
Et
très rapidement, sans contrôler.
Sans contrôler.
Sans contrôler, finalement, il faudrait mettre des critères beaucoup plus stricts, si vous voulez. D'abord, parler la langue, ça me semble, adopter le principe de laïcité, faire allégeance à la France, entre guillemets.
Vous étiez en politique et vous savez très bien comment sont les hommes et les femmes politiques. Ce qui compte, c'est les voix. Ce qui compte, c'est les électeurs. Donc, plus un corps électoral sera nombreux et plus ces gens se coucheront face à un corps électoral. C'est pas plus compliqué que ça.
Non, mais ok, mais on n'est pas élus parce qu'après, c'est dangereux, si vous voulez. Vous leur devez des choses.
Ben oui.
C'est-à-dire que vous signez un contrat en disant ok, vous m'élisez, vous n'êtes même pas sûr d'ailleurs.
Ben c'est comme la mafia. Hein.
Oui, c'est un peu ça d'ailleurs. Ok, vous votez pour moi, vous n'êtes même pas sûr qu'ils vont voter pour vous d'ailleurs, vous n'êtes pas dans. Moi, le nombre de fois, on m'a dit on va voter pour vous, on n'a pas voté pour moi. Et j'avais rien promis en plus. Hein. Vous n'êtes pas sûr d'être élu. Et puis, vous savez pas ce que. Et puis, à chaque fois, on vous demande une place dans la crèche. Enfin, ça, vous savez ça par cœur, hein, vous étiez élu. On vous demande. En fait, il y a un contrat, oui, c'est ça. C'est un échange. Il y a une concession à faire. Ben, faut pas la faire. On est élu parce qu'on a des choses à réaliser. On n'est pas élu pour avoir des. Enfin, si, pour avoir des voix, mais on a un programme, on doit s'y tenir.
Alors, on va passer à la seconde partie, mais avant ça, les Bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci à vous d'être si nombreux, comme toujours. Continuez à nous écouter tous les samedis, à nous soutenir tous les samedis. C'est vous, les patrons de Radio Courtoisie. Si nous avions des annonceurs comme font les autres grands médias, eh ben c'est eux qui justement choisiraient les sujets. Et si nous étions dans le service public, alors là pour le coup, nous n'inviterions pas Madame Manon Sieradzek pour parler de son dernier livre, L'Empire Invisible au cœur des mécanismes de l'islamisme radical. Excellent livre aux éditions Hors Cadre, un livre pas que de témoignages, mais aussi c'est un, on peut dire, une enquête, un reportage quasiment de terrain. Voilà, c'est, vous avez
oui,
fait du terrain.
On a utilisé des rapports, on a utilisé des rapports qui ont été faits. Oui, il y a de la matière et il y a de l'opérationnel. Oui, il y a du terrain, c'est vrai.
Il y a du vrai terrain. Et puis, moi, ce que j'aime, je le répète, j'aime bien me répéter, c'est que cet angle de cette société un peu invisible, on n'en parle pas, on en parle très très peu, parce que les grands médias, ce qu'ils nous montrent, c'est ce qu'il y a de visible en fait. Ça c'est le gros problème. Ce qu'ils nous montrent, c'est voilà, ce que l'on voit, les faits divers, les choses comme ça. Et là, pour le coup, vous nous expliquez ce que les auteurs ne font pas, qu'en effet, les islamistes sont beaucoup plus malins qu'on ne le pense et utilisent les méthodes liées à la démocratie, aux lois républicaines, afin de ramper et d'imposer in fine leur point de vue. Vous avez fait ce livre aussi avec un ancien juge d'instruction,
C'était aussi ancien procureur.
D'ailleurs. Ancien procureur. Et donc, j'imagine qu'il a pu voir aussi des choses dans les tribunaux. Moi, par exemple, j'ai souvenir de ce qui se passe à Bobigny, au tribunal de Bobigny, qui est quand même un tribunal lui-même, je ne vais pas dire infesté, mais pas loin, quoi, on peut le dire. C'est-à-dire que même à ce niveau-là, parce que parler des tribunaux, de la justice... Le Kidam n'est pas au courant. Le Kidam qui regarde BFM, etc., il n'en sait rien de tout ça, pour le coup. Et ça, vous l'expliquez excessivement bien.
Il n'y a pas de juge en hijab.
Non, je ne parle pas de ça. Mais
il y a des avocates qui se sont
pointées voilà,
en hijab.
Il y a des avocates.
Enfin, elle s'est fait virer par le président de,
oui, mais,
par le président de la Chambre.
Oui, mais
ça peut arriver.
Ils ont de l'influence. ils ont l'influence. Moi, je me rappelle un certain juge des enfants, M. Rosenzweig de Bobigny, qu'on appelait Petit Papa Noël. Les criminels l'appelaient Petit Papa Noël.
Oui, les criminels, mais là, on parle de l'islamisme. Oui. Alors, on a peut-être des liens avec les narcos, mais...
Mais bien sûr qu'il y a des liens.
Mais bah oui, parce qu'ils ont été élevés dans le même milieu. C'est un ancien frériste, un ancien recruté, qui nous a expliqué qu'en fait, il y avait des liens très forts. J'ai recueilli un témoignage. Quelqu'un très courageux qui est parti de chez eux et qui m'a raconté exactement comment ça s'était fait, comment il avait été recruté, etc.
Bah, dites-nous un peu.
Alors, ça s'est passé en Seine-Saint-Denis, évidemment. Ça ne va pas vous choquer. Alors, ils recrutent en général des gens qui sont assez, qui sont dans les quartiers, qui travaillent pas, qui manquent un peu de repères. Alors, on leur promet, on va leur dire, oui, bon, faut aller à la mosquée quand même, on va t'apprendre des choses, t'es un frère. Alors, ils utilisent toujours aussi, vous savez, le côté affectif. T'es mon frère, on va s'occuper de toi, on va te protéger, on va te donner à manger, etc. Donc, ils sont approchés de cette façon-là. Et puis après, ils rentrent, et puis eux-mêmes deviennent recruteurs. C'est-à-dire qu'ils vont de ville en ville, on leur dit, voilà, il faut les recruter, telle personne, etc. etc. Et eux-mêmes, après, sont utilisés comme recruteurs. Alors, je leur dis, mais vous allez me dire, non, on va dormir chez des gens, on va manger dans des magasins, donc tout est gratuit, c'est bénévole. Donc, en fait, ils ont beaucoup de complices. Il y a beaucoup de... Sans le savoir, si vous voulez. Ils sont vêtus, nourris, blanchis. Et puis comme ça, ils recrutent des gens, etc. Alors, et puis quand c'est fini. Il y a jamais plus de lien. C'est terminé. Alors lui, il en est sorti. Pourquoi ? Parce que sa mère l'avait prévenu. Elle dit, oh là, attention, t'écoutes plus la musique, il y a un problème là. Parce qu'ils sont complètement renfermés sur eux-mêmes. Après, c'est comme une secte, en fait. Ils sont entre eux, etc. Et lui, il est sorti de là parce qu'il avait quand même été plus intelligent que les autres et moins faible que les autres.
Vous savez,
donc, ils ont des cibles.
Vous savez, en 2005... À l'époque, quand les banlieues se sont enflammées, ça avait commencé par Clichy-sous-Bois, je faisais des maraudes avec quelqu'un que vous connaissez, j'imagine, député maire de l'époque de Raincy, M. Éric Raoult.
Oui,
j'ai fait ça
bien.
Tous les soirs.
Vous connaissez bien.
Tous les soirs avec lui dans sa bagnole, enfin avec son chauffeur, parce qu'Éric Raoult ne savait pas conduire. Et,
Franck Barthes.
Non, c'était un autre gars... Bref, et donc, on allait sur le terrain voir les CRS, etc. Et puis, on avait vu une chose. J'étais tout jeune, parce que j'étais un jeune d'Éric Raoult à l'époque quand j'ai commencé dans ce parti. Et après, non, mais au début, oui. Et on voyait des types en djellaba qui, à l'époque, disaient aux jeunes « Arrêtez, arrêtez !» Et certains jeunes arrêtaient. Donc déjà, en 2005, on voyait que ces gens-là avaient de l'influence sur ces jeunes. Voilà. Et c'était des types qui, à l'époque, avaient 40 ans.
Ils les nourrissaient.
Voilà.
Il y a un lien économique très fort entre eux. Il y a un lien de dépendance, finalement, dont ils se servent. Puisque l'aide au devoir, ce n'est pas pour rien que les associations, le secours islamique, qui a quand même des produits financiers à hauteur de plus de 6 millions d'euros. Donc 4 millions d'euros. Vous vous rendez compte un peu, c'est cette masse d'argent qui arrive, on ne sait même pas d'où. 4 millions de dons, mais le reste... C'est pas d'où ça vient. Et ben eux, ils préconisent de l'aide humanitaire, de l'aide aux devoirs pour les mineurs, etc. C'est toujours des missions humanitaires. Donc quand vous dépendez quelqu'un économiquement, on vous le donne à manger, vous nourrissez la famille, bah écoutez, vous l'écoutez.
Alors, question d'auditeur. Merci de votre excellente émission. J'aimerais qu'on puisse approfondir la question du halal. C'est un impôt payé par l'islam. Or, seul l'État peut lever l'impôt. Il nous est imposé sur les viandes et on ne sait pas quelles sont halal et de nombreux objets maintenant, y compris des tissus et autres qui sont halal de leur point de vue. Donc, nous avons payé un pourcentage qui rétribue l'islam, mais surtout l'islamisme. Puisque c'est l'autorisé par l'État, est-ce que l'islam serait la religion officielle de l'État français ? Il faudrait vraiment que des juristes se penchent,
oui, il a raison.
Se penchent à la question.
Votre auditiste a raison, il faut se pencher sur le problème. Alors, Florence Bergeau-Blacker a étudié tout ce marché de l'halal. Moi, c'était pas l'objet du livre.
Je sais. C'est quelque chose qui revient chez les gens.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que alors, la taxe, effectivement... Alors non, c'est pas un État... On n'est pas dans un État islamiste. On est dans une démocratie républicaine, une et une indivisible. Donc, on ne va pas mélanger. Et toi ?
Théoriquement.
Il faut s'intéoriser.
Théoriquement.
Non, mais même.
Mais attendez, non, moi je suis pas d'accord avec vous parce que moi je vais vous dire.
Je ne dirais jamais que c'est l'islam qui.
Non,
État islamiste, ça c'est pas possible.
Non, c'est pas ça que je vous dis. Ce que je veux vous dire, merci, c'est que la République dit qu'elle ne reconnaît pas les communautés. Mais en réalité, c'est faux.
Non,
elle reconnaît. Qu'elle... Ben si, oui, la une est indivisible, il n'y a pas de communauté dans la République, c'est quasiment l'article premier.
La Constitution, oui.
Mais je suis désolé, de plus en plus. Les représentants, on va dire les représentants, si vous voulez, de la République parlent des communautés aux communautés, ne serait-ce que des communautés de genre.
Oui, c'est vrai.
Par exemple.
D'ailleurs, les islamistes en ont profité. Hein. LGBT, quand Macron a ouvert un peu le marché LGBT, on va dire ça comme ça.
Oui.
Et ben, ça a été une nouvelle.
Pourquoi vous dites ça?
Bon, pour rien.
Voilà.
Et il y a une nouvelle. Je sais pas,
on
envoie un ambassadeur LGBT au Cameroun. C'est quand on a ouvert à ça, non?
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Donc, ça a été une possibilité de plus pour les islamistes de dire, bah voilà, regardez l'Occident, quoi. Regardez, c'est
aux islamistes et aux Russes.
Oui, alors les Russes, je m'occupe pas des Russes là, mais je m'occupe des islamistes. Et ça a été, une influence, une possibilité de contester l'Occident en plus, en tout cas la France. Voilà.
Alors,
et ça, c'est malheureux à dire, mais j'ai vu que sur les sites internet de certains islamistes, ils parlaient de ça. Ça leur a ouvert la voie.
Alors,
une voie de plus.
Question d'auditrice. L'Occident se trouve dans un vide spirituel et l'on constate actuellement chez nous que cette religion musulmane propose des réponses. La solution de facilité consiste à accepter des réponses dans la vie de tous les jours permettant de retrouver un sentiment de solidarité. De plus, les notions de féminin et masculin étant bouleversées, ce cadre peut donner un sentiment de sécurité.
Oui, mais elle a raison. Enfin, c'est une auditrice, oui, elle a parfaitement raison.
Mais
la religion donne un cadre, mais ce n'est pas une religion, c'est
oui,
une
mais...
idéologie politique.
Oui, mais est-ce que la laïcité, justement... est un sort de cheval de Troie pour ces gens.
Parce que, oui, c'est ce que je vous ai dit depuis le début.
Mais parce que, regardez, la laïcité, c'est quand même...
La laïcité,
Pour les gens... Je parle en 2026, je parle pas peut-être en 1905,
oui.
Voyez encore. Mais en 2026, en tout cas, c'est vu comme une anti-spiritualité.
Non, mais c'est pas une anti-spiritualité. Chacun a la liberté de conscience et d'exprimer sa religion, mais chez soi, c'est tout. Pas dans les établissements publics,
oui, mais,
pas dans l'État,
oui, mais
etc.
Par exemple, en Angleterre, il n'y a pas la laïcité.
Non, mais il n'y a que la France. Là.
Et pourtant, vous avez le droit d'exprimer votre religion,
oui,
vous voulez.
Oui.
Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que la laïcité, c'est ce qui empêche, par exemple, aux gens pratiquer Noël. Vous êtes, par exemple, à Paris, vous vivez à Paris. Bon, et quand vous êtes le 25 décembre à Paris, vous avez l'impression d'être un 15 mars. Vous n'avez pas l'impression d'être un 25 décembre. Par exemple, les crèches de Noël en mairie, alors que j'ai toujours connu ça. Moi, je suis du 16e. Moi, je suis du 16e. Je vois la mairie du 16e arrondissement. Aujourd'hui, il n'y a pas de crèche. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bobos. Excusez-moi. Des vieux 68ards qui vont.
Il y en a encore.
Et qui vont, avec leur association de merde, excusez-moi, vous le couperez, faire des recours au tribunal administratif pour empêcher.
C'est ce que je vous ai dit.
Oui, mais ça, ce n'est pas les islamistes.
Oui, mais
ça,
c'est même la même
c'est la gauche.
Oui, mais c'est les mêmes. Vous savez très bien que les islamistes, ils sont liés avec la gauche. Enfin, l'extrême gauche. Enfin, les socialistes, pas... je ne parle pas de François Hollande, là. Je parle des écologistes, donc
oui, mais,
on ne sait
oui,
même pas comment ils sont financés,
d'ailleurs. Ce que je veux vous dire, c'est que ces questions-là qui empêchent la spiritualité, parce que la laïcité, dorénavant, est vue, peut-être pas en tant que juriste, je ne vous parle pas en tant que juriste, je vous parle dans les faits aujourd'hui, en 2026. La laïcité, aujourd'hui, est vue comme un texte qui est contre toute forme de spiritualité. Et donc...
Rien à voir.
Ah, si.
Non.
Bah, écoutez...
Il vous empêche pas de croire.
Il
vous empêche pas d'exercer, de faire tous les actes religieux que vous voulez. Vous disent, vous le gardez dans votre sphère privée.
Oui, mais lorsque...
Il n'y a pas de problème avec les catholiques. Les juifs.
Mais lorsque vous...
Personne ne vous impose la Torah.
Non, je ne parle pas de ça. Mais... on empêche, par exemple, de montrer des crèches devant les mairies. C'est fini, ça, cette époque-là. Ou dans les écoles, par exemple. Moi, j'étais à l'école lycée La Fontaine. On avait la crèche, c'est à côté.
Et la crèche,
c'est
pour
d'Auteuil.
Enfin, elle n'est pas obligée d'être dans une mairie. C'est comme le voile dans une mairie. Hein.
Oui, mais si on supprime la spiritualité, les gens vont vouloir...
Vous supprimez pas la spiritualité.
Les gens vont vouloir aller vers...
Mais la crèche, vous l'installez chez vous. Vous n'avez pas besoin de l'installer à l'école. L'école, c'est un lieu neutre. Vous apprenez, vous faites de l'éducation. Enfin, je veux dire, vous apprenez à lire, mais
non,
écrire
parce
et
que
compter.
C'est que, non, mais parce que la crèche, c'est pas que culturel, c'est aussi culturel.
C'est, oui, voilà, c'est culturel, d'accord. Bon,
c'est ce que madame, oui. C'est ce que madame dit. Hein,
je conteste pas ce que madame dit.
Si, c'est-à-dire
mais
que
je dis
si
que
vous
le principe
enlevez...
de laïcité, il est propre à la France, c'est vrai, parce qu'en Europe, l'Allemagne, tout ça, ça n'existe pas. Hein,
oui,
l'Angleterre,
voilà.
Enfin, l'Angleterre qui est plus dans l'Union européenne. Parce que ça c'est l'histoire. Je ne connais
mais
pas
parce
l'origine.
Que, parce que
en Europe, ça n'existe pas. C'est très difficile de faire passer une notion de laïcité en Europe, c'est sûr.
Mais parce que la laïcité permet justement à, parce que les islamistes utilisent cette laïcité, j'en suis sûr, en disant oui, mais regardez, à cause de la laïcité, vous pouvez pas pratiquer votre religion, c'est un anti-spiritualité. C'est mais bien sûr.
Non, mais
et donc du coup,
l'Occident,
les gens y croient.
Mais ils sont contre la, c'est pas qu'ils sont contre la laïcité. Ils sont contre l'Occident. Ils sont contre les valeurs occidentales.
Oui, mais...
Voilà, point. Vous êtes islamophobe.
Est-ce que ces islamistes...
Vous n'aimez pas les musulmans.
Est-ce que ces islamistes arrivent à imposer ce qu'ils imposent de même manière en Allemagne, en Italie?
Mais non, parce qu'il n'y a pas le principe de laïcité. Mais,
ben voilà.
Mais vous avez vu l'État en Allemagne. Vous avez... Non, mais alors je ne parle pas d'Italie, mais en Allemagne, vous avez vu le nombre d'islamistes?
Ben c'est moins...
Vous avez vu le nombre d'islamistes au Danemark? Vous avez vu que Bruxelles est complètement inondée d'islamistes.
Bruxelles, oui.
Oui, il n'y a pas que Bruxelles.
Oui.
Donc heureusement qu'il y a un principe de laïcité, pardon. Mais heureusement.
Pour vous, c'est quelque chose qui protège?
Ah oui, c'est fondamental. C'est fondamental. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi nous, il n'y a que nous qui la pratiquons. Je ne sais pas pourquoi ailleurs, ils ne la pratiquent pas. Mais c'est fondamental. Ailleurs, c'est une horreur. J'ai pas fait une étude en Europe, en Suède, en Danemark, en Angleterre. Mais vous avez vu les manifestations en Angleterre? Enfin, je veux dire, et en Belgique, ils sont perdus. Et surtout la Belgique.
Je pensais pas que vous avez. Pour moi, ça protège pas. Mais bon, peut-être.
Ah
que...
non. C'est une valeur fondamentale constitutionnelle.
D'accord.
Et là, c'est la juriste évidemment qui vous parle, qui protège.
Ok.
Et il faut la renforcer. Et il faut que l'État prenne ses responsabilités surtout. Ce qu'elle ne fait, ce qu'ils ne font pas.
Bonjour, madame, je pense que votre approche du problème est totalement inepte. Oh là là. Vous voulez imposer une foi des lois d'une république morte et vide de sens. Avec de tels arguments, vous ne convaincrez personne. La seule stratégie qui va est d'opposer à l'islam la foi de nos pères, le catholicisme, avec la certitude que nous nous opposons à la supercherie mahométane de la vraie foi. Pour l'instant, votre discours est inaudible. Bonjour, monsieur Borowski, pourriez-vous cesser de commencer vos questions par « est-ce que ?» Ah oui, excusez-moi, cher auditeur. C'est vrai qu'à Radio Courtoisie, le français, c'est excessivement important. La langue française propose plus de 3000 verbes, vous avez le choix.
Oui, il a raison.
Merci, vous avez vu, même moi je me fais attaquer.
Il a raison.
Donc du, voilà, c'est
alors,
ça que ça...
Alors on nous dit c'est inaudible. Pourquoi c'est inaudible?
Mais parce que monsieur pense, à juste titre, que si la laïcité s'attaque au catholicisme, plus on s'attaque au catholicisme, c'est-à-dire la foi de nos pères, c'est ce qu'il dit, voilà, le catholicisme, plus vous aurez l'islam qui va remplacer... qui va remplacer le catholicisme, c'est ça en fait.
Enfin, les
c'est
catholiques,
pour ça que
ils n'imposent pas par une idée. Enfin, les catholiques, à ce que je sache, ils n'imposent pas leur loi à tout le monde. C'est pas une idéologie. Comme ce que vont nous faire croire les islamistes. Là, il s'agit de politique, monsieur. Il ne s'agit pas de religion. On n'est pas sur le même terrain. Hein.
Bonjour à vous et Virginie. Merci à elle pour ses émissions musicales. Nini Vlam, bravo. Que pensez-vous de la double nationalité? Un Algérien vote deux fois pour le président algérien et pour le président français. C'est un pouvoir énorme. Je n'ai qu'un bulletin de vote.
Il a raison. On est en France, on vote en France. On est français, on n'est pas français. C'est la nation. Enfin, je veux dire, on est en France, on vote en France. Et on lève le drapeau français et on chante la Marseillaise. Et pas, on ne vote pas avec le drapeau algérien sur le périphérique quand on gagne un match de foot. Je suis d'accord.
Je vous soumets une réflexion dont nous ne pourrons pas y échapper. La voici. Beaucoup de Français de confession musulmane exercent des professions techno-manuelles. Imaginons que ces personnels retournent dans leur pays d'origine. Avons-nous le personnel français de souche capable de remplacer, d'assurer les métiers que ces maghrébins pratiquaient?
Non, mais là, on confond deux choses. Là. On parle de maghrébins et du musulman et d'islamisme. On n'est pas contre les musulmans. Il y a des musulmans extrêmement intégrés. Les trois quarts, peut-être. Je ne sais pas. Nous, on combat contre une idéologie politique qui veut renverser nos valeurs. On ne parle pas de maghrébins, là.
Alors, cher monsieur, vos émissions, vos invités sont toujours intéressantes, je vous en remercie. Pour ce qui concerne la justice pratiquée dans notre pays, outre les problèmes liés à l'immigration et à l'islam, nous subissons toujours, et ce depuis près de 60 ans, la harangue Baudot de 1968 qui pourrit tout. Qu'est-ce que c'est ça, la harangue Baudot ?
Je ne connais pas.
Bon, je ne sais pas ce que c'est.
C'est quoi, c'est
je suis désolé.
Peut-être qu'il faut préciser.
Oui, préciser.
C'est 68 ans, non ?
Renvoyer un
c'est la gauche,
message.
C'est l'idéologie de gauche, non ?
Peut-être, je ne sais pas du tout. Tout ce laxisme des gouvernements européens vis-à-vis de l'islam radical, l'encouragement de l'immigration de masse en Europe, cela ne cacherait-il pas un grand remplacement voulu ? Point d'interrogation.
Ah oui, remplacer les musulmans par nos populations européennes, c'est ça ?
Non, un grand remplacement voulu, c'est-à-dire ouais, non, nos populations européennes par des...
Par des musulmans. Je ne sais pas si c'est voulu. Je ne sais pas s'il y a une volonté politique derrière.
Il y a une trentaine d'années, il y a des émissions radio courtoisées avec des problèmes juridiques où il est énoncé que le port du voile est le signe visible de l'avancée de l'islam en France. Mmh. Et même certains États donnaient une prime financière à celles qui le portaient. C'est donc bien un signe politique oui. et non religieux. C'est de l'entrisme politique et ils font un amalgame.
Oui, c'est vrai que c'est de l'entrisme politique, c'est ce que je dis. Le fait de porter un vêtement, un hijab ou un vêtement religieux... C'est occuper l'espace public et c'est un signe politique. C'est dire, voilà, je veux imposer mon idéologie politique. Le vêtement, ce n'est pas un simple vêtement, c'est une idéologie. Hein.
Pourquoi c'est une idéologie ?
Parce que c'est...
Justement, comment vous arrivez à faire dire à une jeune fille, par exemple, qui vous dit non, mais c'est... Parce que moi, j'entends souvent
oui,
ça. Ah, c'est juste un bout de tissu.
C'est juste un bout de tissu,
tout.
Mais pas du tout, c'est pas un bout de tissu. Parce que ça, c'est les pressions communautaires.
Ou ceux qui vont vous dire, oui, mais vos grands-mères,
oui,
Brigitte Bardot...
Juppé me l'avait dit, oui, on porte un voile comme ma grand-mère, oui.
Ben voilà.
Non, mais sauf que c'était juste un petit foulard.
C'était un fichu,
c'était un foulard. Ce n'est pas un voile. Un voile, c'est un signe, c'est un vêtement politique. Et je ne sais même pas, et je ne crois pas que la charia l'impose en plus.
Elle n'impose pas
la charia, mais le Coran.
Ça n'impose pas le voile.
Normalement, pas nécessairement. La Mecque, elle ne porte pas le voile, par exemple. C'est Fiametta Vénère.
Est-ce que vous avez lu le Coran pour...
Non, pas tout. Quelques versets, mais pas tout.
D'accord.
Pas tout. Alors, le prophète disait qu'il faut effectivement aller faire de la propagande, donc faire la guerre. La propagande, donc c'est l'influence. Et me semble-t-il, il fallait aussi porter le voile. Les femmes doivent être vêtues d'un voile.
La finance internationale doit absolument métisser les peuples pour les sortir de l'histoire, les manipuler pour éviter toute révolution contre elles-mêmes. Toutes vos discussions ne sont-elles pas un écran de fumée pour camoufler cette vérité ?
Je ne fais pas d'écran de fumée, moi je me bats comme je peux. Je vais au tribunal contrer... Enfin, je veux dire, j'ai des actions concrètes, j'ai pas l'impression de faire de l'écran de fumée. Enfin, si c'est moi dont il s'agit ou...
Mais non. Depuis 50 ans, les cerveaux ont changé du fait de l'influence des médias, des réseaux sociaux, des traitements médicaux, etc. Les gens cherchent aujourd'hui le confort mental. Ce que vous décrivez si bien ne s'appelle-t-il pas les submersions migratoires dont Jean-Marie Le Pen parlait il y a 30 ans ? Quand on voit que la vérité sur le couple Macron n'a même pas le droit d'être dite, vous n'êtes-vous pas optimiste sur le courage des élus ?
Ah non, mais j'ai jamais dit qu'ils étaient courageux, les élus. Il y a certains élus qui sont courageux, mais il y a des pressions qui font que les élus cèdent.
Est-ce que ça passe d'abord par l'élu local ? Parce que l'élu local, c'est celui qui est le plus proche, des administrés.
Mais bien sûr que ça passe par l'élu local. Bien sûr, par l'élu local, après par le député, par le sénateur, bien sûr. Ça passe par tous ces gens-là, par tous ces élus-là.
Juifs et arabes qui sont des sémites se livrent une guerre depuis que Sarah a mis Agar, l'égyptienne, dans le lit d'Abraham. Cette histoire fait qu'ils veulent nous entraîner dans une guerre qui les concerne eux, mais pas nous. De Gaulle disait, nous sommes nous sommes culture gréco-latine, religion catholique.
Et donc
voilà, c'est un commentaire d'un auditeur.
D'accord.
Je lis tous les commentaires d'auditeurs parce que voilà, ils nous financent et donc
vous avez bien raison.
Je me dois de les lire, surtout quand ils appellent. Et là
non, mais
ils appelaient.
Pas dit qu'il fallait pas répondre.
Et là ils appelaient. Mais c'est pas faux ce qu'il dit.
Vous voulez bien relire parce que il y a eu plusieurs idées en même temps.
Non, mais ça, mettons ça de côté. mais en effet. C'est là où c'est important, c'est que On ne se rend pas compte en voyant seulement que le côté un peu immergé de l'iceberg. Moi, je vais vous dire, j'ai vraiment très très peur. Je vous le dis sincèrement, et pour, moi je vois ce livre comme un peu une forme d'appel au secours.
À son
que, qu'en fait, c'est perdu. Que la bataille est perdue.
La bataille n'est jamais perdue.
Qu'est-ce qui vous rend
optimiste?
Parce
que moi je suis. Mais c'est pas que je suis optimiste, c'est que moi je suis une combattante. Donc je me battrai jusqu'au
bout.
Oui, mais
combien de femmes comme vous?
Ah ben je sais pas, j'ai pas compté, mais il y en a. Toutes les personnes déjà que j'ai interrogées.
Est-ce que par exemple.
Il y a des courageux. Après, il y a beaucoup de gens qui ont peur parce qu'ils sont menacés.
Mais regardez,
parce qu'ils
prenons
pas,
les féministes.
Féministes.
Oui, mais les féministes. Oui, mais c'est important, les féministes. Elles ont pignon sur rue, elles n'en parlent pas.
Mais oui, mais je suis d'accord. Si, Caroline Forest en parle.
Mais Caroline Forest n'est pas audible. Excusez-moi. Caroline Forest, elle parle juste franc-tireur, c'est quoi? C'est 5000 tirages par mois, c'est rien du tout.
D'accord, donc, mais c'est une féministe.
Oui, mais c'est une fille. Bref.
Ah, effectivement, les féministes avec Gisèle Halimi en 89, elles disaient que le voile, c'était le contraire de l'émancipation des femmes. Maintenant, elles disent que c'est le voile, c'est l'émancipation des femmes.
Oui.
Vous vous rendez compte ce retournement d'idéologie? En combien de temps? En 89, c'était Gisèle Halimi, on est en 2026. Vous vous rendez compte?
Ah, ok. En 1968,
oui.
La harangue Boudot,
oui.
Un membre du syndicat de la magistrature en 68, a écrit un texte ouvertement idéologique. La doctrine qu'il expose continue d'imprégner les ministres venus de la gauche.
Certainement.
Ça faut en parler du syndicat de la magistrature, oui. Excusez-moi.
On le sait, mais ils sont très peu, en fait.
Oui, mais attendez, ils sont très peu.
Ils représentent quoi? C'est un syndicat minoritaire.
Le syndicat
des magistratures, il fait beaucoup de bruit, mais c'est un syndicat minoritaire.
Ils disent « Soyez partiaux, examinez toujours où sont le fort et le faible qui ne se confondent pas nécessairement avec le délinquant et sa victime. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, pour l'écrasé contre la compagnie d'assurance de l'écraseur, pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice. »
C'est quoi le plaideur contre la justice?
Bon, je sais pas.
C'est une affaire privée.
Alors,
c'est vrai qu'au Conseil des Prud'hommes, les employés gagnent. Les salariés gagnent plus souvent que les employeurs.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que.
Protection du plus faible, c'est ça que vous voulez dire.
Si vous avez un.
Oui, mais j'imagine. Mais tous les magistrats ne sont pas au syndicat de la magistrature.
Oui, d'accord.
Heureusement.
D'accord, mais ce monsieur en 68, j'imagine qu'il a imprégné la tête des magistrats. Et lorsque ce gars-là en 68 a parlé, il devait être quelqu'un, il devait être excessivement important. Et j'imagine que dans leurs écoles, dans les facultés, etc. Moi, je connais un peu la faculté pour le coup, j'étais à Paris 2, j'ai fait 6 ans là-bas, j'étais syndicat étudiant, j'ai été membre du conseil d'administration de Paris 2 Assas, donc je le connais très bien. Et contrairement à ce qu'on pense, Assas c'était pas la droite, c'était plutôt la gauche parce qu'on perdait toutes les élections. Voilà, faut dire les choses. Et donc j'ai vu d'ailleurs la justice, c'est que des femmes. Excusez-moi.
Oui, mais il y a une population féminine plus importante que celle des hommes.
Non, mais c'est 90% des femmes, la justice.
Mais bon, la population française, c'est 52% de femmes.
Oui, mais pas,
que des hommes.
Oui, mais pas 90%.
Non, mais d'accord. Vous avez raison, mais il y a plus de femmes que d'hommes.
Mais oui, mais d'accord. Mais on sait très bien quelle est leur vision idéologique à gauche. En plus, la justice, c'est très à gauche. C'est aussi franc-mac, mais bon, ça, c'est autre chose. Et donc, du coup, j'imagine que pour la gauche, le prolétariat. C'est l'immigration.
Qu'est-ce qu'il en reste?
Non mais la gauche, c'est pas que la gauche marxiste, c'est la gauche progressiste, etc.
Oui.
Pour ces gens, l'immigration, c'est le prolétariat. Voilà.
Mais c'est sûr que
et donc
si
pour
vous
eux,
allez...
et donc pour eux, l'ouvrier contre le patron.
Mais c'est vrai que si
tête,
vous allez au
eux,
PNF,
quoi.
C'est des mecs de gauche, on le sait ça.
Oui, mais quand Boudot dit ça, ça veut dire que le juge.
Oui,
eh
mais
ben...
pas tous. Vous ne pouvez pas dire que tous les magistrats de France sont ultra de gauche. C'est pas vrai.
Je ne dis pas qu'ils
c'est
sont
pas
tous
vrai,
de gauche.
Mais c'est vrai qu'il y a une tendance. On sait très bien que les magistrats sont plutôt de gauche. Il y en a, mais j'en connais à droite.
Écoutez,
je connais les avocats généraux qui sont à droite.
J'étais sur la commission d'ordonnance 45 à Mme Dati, garde des Sceaux, à l'époque, en 2008. À l'époque, 100 000 peines de prison par an, en 2008, n'étaient pas effectuées. Voilà, déjà, première des choses. Mme Dati a imposé la loi du fait que sous les 2 ans de prison... Vous effectuez quasiment pas la prison. Vous êtes d'accord avec moi? Bon.
Toujours le cas. Hein.
Voilà, c'est toujours le cas. Et ça va pas changer. Ça peut-être même, ça va même augmenter.
Les bracelets, vous aménagez les peines.
Voilà, ils vont
deux
même,
ans, hein, vous aménagez voilà, les peines.
Ils vont même aménager de plus en plus, parce que visiblement, comme ils ne veulent pas être construits de prison, et donc du coup, ils vont sortir de plus en plus de gens. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont sortir des types. On sait très bien que l'islamisme est dans les prisons.
Ah oui, mais alors ça, on ne l'a pas étudié. Ça sera aussi un problème par projet. Parce que ça, il faut y aller. Parce que alors là, ils se radicalisent.
Voilà. Donc, si vous sortez, si en plus vous sortez, paraît-il, avec le nouveau dispositif Darmanin, 6 000 prisonniers de plus, j'imagine parmi les 6 000, il y aura bien la moitié d'islamistes. Qu'est-ce qui va se passer?
Non, mais ils ne vont pas sortir les islamistes. Enfin, je veux dire, après la radicalisation,
vous n'en savez pas.
Il y a des référents laïcité.
Vous ne savez pas. Parce que c'est lié au nombre aux années de peine qui restent, etc. Oui, oui. Donc, vous ne savez pas.
Et puis, vous avez des remises de peine.
Mais voilà.
Donc, oui, c'est possible.
Donc, moi, je me pose la question. Est-ce que le combat, en réalité...
Mais le combat, il est difficile.
Parce qu'on a en plus un ennemi, c'est quasiment l'État. L'État est quasiment ennemi. L'État est quasiment votre ennemi à vous aussi. Hein. En agissant de la sorte, il est votre ennemi. Eh oui. Donc, du coup...
En agissant de la sorte, après dire que c'est conscient, il y a une volonté politique.
Non, mais je ne dis pas qu'il y a une volonté politique d'avoir des islamistes. Mais,
je ne pense pas.
mais la conséquence, c'est que l'action de l'État fait qu'il y a.
Non, c'est les défaillances de l'État, c'est la peur de l'État, c'est le laisser-faire de l'État, c'est la banalisation. Finalement, bon, bah, ok, on voit des nanas voilées, mais bon, bah, c'est tellement banal. Oh, bah, pourquoi ça nous gênerait? Bah, voilà, enfin, je veux dire, l'État ne fait rien, c'est sûr. Vous pensez qu'ils vont courir, mettre des amendes à toutes les femmes voilées ou en niqab en voiture? Enfin, je veux dire, comment on contrôle tout ça aussi?
Mais comment ils faisaient?
Comment on contrôle les associations, par exemple, à qui on donne une subvention qui va aux frères musulmans?
Et pourquoi on va donner des subventions aux associations?
Enfin,
je comprends pourquoi on va donner. Enfin, vous savez comment ça coûte des subventions en général? Ça coûte 40 milliards par an.
Oui, non, mais d'accord.
Mais vous imaginez? Pourquoi? Mais enfin, je sais pas, on est dans un pays.
Le principe, c'est d'arrêter la source de financement à des associations qui prônent les frères musulmans ou l'islamisme radical. Point. Et ça demande un contrôle très sévère des associations.
Mais vous les connaissez, les gens qui contrôlent?
Non, je connais. Y en a,
vous voyez comment ils travaillent, tous ces types de la fonction publique?
Non, mais c'est ce que je vous dis, il y a des défaillances de l'État. Ils font un contrôle très strict. D'ailleurs, on a interrogé Lydia Guirous, qui nous a dit il y a des dispositifs OK.
Ça commande
énormes.
Beaucoup, en tout cas. Hein.
Il y a des dispositifs énormes. Lydia Guirous, qui était sous-préfète à la délégation.
Qui a été virée.
Je ne sais pas si elle a été virée, mais si. Elle est partie, je ne sais pas. C'est un témoin, donc je ne vais pas. Voilà. Rentrer dans les détails, et elle nous disait qu'il y avait des fléchages de subventions pour les jeunes, enfin pour des jeunes radicalisés, et qu'on savait jamais, on connaissait pas le résultat, on savait pas combien de jeunes sortaient de là, parce qu'en fait il y a un total, il y a une absence de contrôle et d'indicateurs de résultats.
Alors, commentaire d'auditeur, il nous reste que 10 minutes, c'est passé vite. Hein.
Ben oui, c'est passionnant.
Bonjour, merci pour votre combat. Et l'issue en ce qui me concerne, c'est de dire que l'islam n'a pas sa place en France. En 1962, les Européens reviennent de France après l'abandon du département français en Algérie, ce qui est vrai. Et en 68, De Gaulle reprend une immigration massive algérienne. Giscard d'Estaing, regroupement familial. Honte à eux d'être traite aux Français. Bon, ok, mais ce qui est vrai.
Il y a quand même des Français qui deviennent qui sont radicalisés. Hein.
C'est vrai.
Beaucoup. Beaucoup plus qu'on ne le pense.
Et qui pratiquent une assimilation à l'envers.
Combien il y en a qui sont partis au djihad en Syrie? Combien il y a d'enfants qui sont nés là-bas, qui sont revenus, les mineurs isolés, qui sont des radicalisés, dont on ne sait pas quoi faire?
Bonjour à tous et bravo pour le courage de votre invité. L'exhibition religieuse dans la rue, à l'école, a commencé avec certains... israélites qui parfois venaient en cours avec la calotte, et j'ai même vu d'enseignants qui la portaient. J'ai parlé des années 80, les enseignants ou élèves concernés refusaient des emplois du temps le vendredi après-midi ou le samedi. Un tel comportement a préparé à mon sens la voie aux islamistes.
Je sais pas s'il y a un lien.
Est-ce que eux se sont pas dit,
tiens, des juifs qui se promènent avec en faisant pas le cours le vendredi après-midi, que ils se sont dit
on va faire comme
eux? Les frères musulmans étaient interdits chez eux en 1928. Ils se sont dit, bah, on va partir en Europe. Bon, quel est le rapport avec les juifs, là, pour le coup?
Bah, c'est une question d'auditeur.
Ouais. Moi, je ne pense pas qu'il y a de lien.
Il dit peut-être qu'ils ont voulu prendre exemple.
Mais ce n'est pas l'exemple. C'est, les juifs n'ont jamais voulu imposer leurs valeurs, leur religion. Et puis, c'est une religion, ce n'est pas une idéologie. Ça n'a rien à voir. Ils veulent prendre... Ils veulent prendre nos principes et imposer la leur. Ça n'a rien à voir.
Comme vous avez raison, ne peut-on jouer sur la double insanité en ce sens que cela donne un double droit à ceux qui la possèdent, ils votent deux fois de deux façons, tirent des avantages des deux pays, et il y a donc inégalité entre les personnes. Ne pourrait-on prévoir à ce propos une loi qui supprime la double nationalité au titre qu'elle n'est pas correspondante, liberté, égalité, fraternité, encore du travail pour les juristes?
Oui, il faut y réfléchir. Comme le droit du sol, c'est vrai que c'est des questions qui sont liées. C'est vrai que le double vote, moi, ça me gêne un peu. Je veux dire, on peut pas voter deux fois. On vote pour un là où on est. On a des intérêts. Enfin, je veux dire, là, je fais de la fiscalité, mais on a une domiciliation, des intérêts économiques, un foyer fiscal. Et ben, on vote là. On vote pas dans son autre pays.
Bon, sauf si vous êtes américain, vous êtes obligé
parce que vous êtes obligé, c'est le revenu mondial, mais c'est une exception, les États-Unis.
Alors, l'islamisme, c'est l'idéologie d'Hitler pendant le Troisième Reich. Il était très ami avec le grand moufti de Jérusalem. Il faut sortir de l'Union Européenne, c'est Madame von der Leyen qui commande.
Oui, mais c'est des nazis, hein, les islamistes. On sait très bien qu'il y avait des liens pendant le... Vous avez parfaitement raison. Il y avait des liens entre le grand moufti...
Et donc, du coup, les conséquences seront celles du Troisième Reich, alors?
En tout cas, c'est des nazis. Enfin, je veux dire, ils fonctionnent comme ça. Les auteurs l'ont très bien dit. Il y a des liens entre eux. Bien sûr, ils fonctionnent pareil. Ils ont la même propagande. Il y a des liens très forts. Il y a une identité. Il y a une identité commune. Il y a un combat commun.
Lequel ?
C'est de prendre le pouvoir, finalement, et d'imposer peut-être sa propre logique raciale. C'est faux ce que je dis, mais c'est...
Un président de la République ?
Mais vous voulez changer les institutions ?
Non, oui, peut-être. Est-ce que, in fine, leur boulot, voilà, c'est de pouvoir, dans 10, 15, 20, 30 ans, j'en sais rien, par la migration, un président de la République.
Mais bien sûr, ils veulent des élus. Ils ont déjà des élus. Vous n'avez pas vu les dernières élections municipales, je pense que vous avez suivi de très près, mais ils ont des conseillers municipaux qui vont donner lieu à...
J'habite Saint-Ouen, j'habite...
Non, mais il n'y a pas que Saint-Ouen, c'est-à-dire que Karim Bourhan, enfin, je ne sais pas combien il y a de...
Donc il n'est pas très islamiste, lui.
Non, il n'est pas islamiste, hein, pas du tout, au contraire. Mais il y a beaucoup de villes où il y a des conseillers municipaux LFI, donc apparentés à mon avis islamistes, puisque ils sont alliés, c'est des alliés. Hein, politiquement, qui sont rentrés dans les conseils municipaux. Ce sont des grands électeurs, je vous le rappelle, qui vont élire des sénateurs. Donc, ils sont déjà rentrés dans les institutions. C'est bien ce qu'on regrette, d'ailleurs. Ils sont infiltrés dans les institutions, pas que là. Mais alors, quand vous me dites un président de la République, on en est loin.
Mais vous pensez qu'on en est si loin que ça?
Ils peuvent être...
Si Mélenchon gagne...
Parce que LFI, mais il ne va pas gagner.
Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il ne gagnera pas?
Je pense qu'il ne gagnera pas.
Moi, je ne suis pas aussi sûr que vous, hein. Parce que déjà,
ça sera terrible.
Monsieur Mélenchon, excusez-moi, mais les journalistes, je connais quelques-uns, ils sont vachement plus... si demain il y a Bardella contre Mélenchon, les journalistes ne vont pas de l'arc républicain contre Mélenchon. Hein.
Non, mais l'arc républicain, ça y est, c'est terminé. Là.
Je crois pas. Hein. Vous croyez que vous êtes si sûr? Je veux dire, vous avez vu la dissolution, le Rassemblement national qui aurait dû avoir 250 députés n'en a eu que 150.
Bien sûr. Non, mais ça, j'ai bien vu que le Front Républicain, ça avait fonctionné.
Avec M. Gabriel Attal, qui est pour ce fameux Front Républicain, par exemple,
Il a fait voter LFI, donc effectivement. Non, mais ça, c'est une grave erreur. Grave erreur.
Donc du coup, M. Mélenchon peut très bien devenir président de la République. Ben non, ça vous...
Non, je ne le vois pas du tout président de la République.
Mais s'il devient président de la République...
Ah, mais c'est une catastrophe.
Qu'est-ce qui se passerait, d'après vous?
Bah, 60% d'impôts.
Indépendamment des impôts, parce que c'est déjà le cas.
C'est la porte ouverte au type de Saint-Ouen, là. Vous verrez. Les élus voilés, l'islamisme complètement accepté partout, ils auront gagné.
Donc là, déjà, il faut se battre sur ces élections, alors.
Mais il faut éviter à tout prix que l'extrême gauche passe, mais moi, à mon avis, elle n'est pas suffisamment puissante pour passer.
Bah écoutez, Mélenchon, c'est un type qui fait 20% aux élections quoi qu'il arrive.
Un peu moins maintenant. Enfin, quoique dans les municipalités, il a pris. Hein.
Hormis le Rassemblement National, je vois pas quel est le gars qui fait autant que Mélenchon. Je vois pas. Et moi, je vous dis, face au Rassemblement National, les journalistes seront pour Mélenchon. Et comme les gens, ils sont ultra influençables par les grands médias, très influençables, et ben qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et les gens vont voter, ils peuvent voter Mélenchon, hein, excusez-moi. Hein. Puis Mélenchon, en campagne, il est très bon, hein, pour le coup.
Non, mais il a beau être très bon, je pense qu'il ne sera pas président de la République.
Félicitations, bah tiens, je me lis quand même un truc en ma faveur, donc voilà, excusez-moi, hein, je le fais.
Je vous en prie.
Félicitations, Mike Borowski, pour avoir dit que l'État est contre nous. Y a-t-il une seule loi qui favorise les petits blancs ? Je crois pas. Bonjour, seule la religion catholique a permis de, par l'espace de liberté dégagé par les luttes entre augustinisme d'État et césaropapisme, le développement technique de notre époque, alors que l'islam est une religion magique au sens qu'Oswald Spengler donne à ce concept et ne permet aucune discussion concernant ses dogmes.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de discussion dans l'islamisme. Enfin, des discussions aussi, vous avez des interprétations du Coran, mais il n'y a pas de discussion. De toute façon, ils veulent imposer leur idéologie. Donc, il n'y a pas de discussion. C'est eux ou nous, finalement.
Manon Sieratzek, Thierry Froment, l'empire invisible au cœur des mécanismes de l'islam radical. Hors cadre, aux éditions Hors cadre, où est-ce qu'on peut trouver votre livre ?
Partout. À la FNAC, au Champ.
Il n'est pas censuré ?
Non, il n'est pas censuré. Ben, il ne manquerait plus que ça.
Ben, c'est possible. Hein. Surtout dans le
droit comme la FNAC. Des recours. Non, je crois qu'il est vendu pouvez... sur Amazon.
D'accord.
Oui.
Et donc bientôt aussi.
Sauf après votre émission, peut-être qu'il sera censuré, je ne sais pas.
Non, mais non.
C'est jamais.
Mais non.
En tout cas, il ne faut pas faire d'amalgame avec les musulmans. Attention
non,
à
pas
ça.
Pas d'amalgame.
C'est de la facilité. C'est trop facile. C'est trop facile.
On ne fait pas
on
d'amalgame,
vous inquiétez
pas. On a
interrogé des musulmans qui sont
justement
contre les islamistes. Attention.
Donc, Maïar Monchipour.
Maïar Monchipour.
Allez-y, lisez ce livre. Bien achetez-le.
Sûr. Il y a même un cher. Un chèque qui
est est-ce que c'est le gars qu'on voit chez...
Parce que non, pas du tout. C'est pas Chalgoumi.
Non, pas lui. Mais c'est celui qu'on voit à CNews des fois. Là, qui,
non, pas du tout.
Non, c'est pas lui.
Non. Et lui qui est pour un islam apaisé, il lutte contre l'islamisme. Il vient de se faire licencier d'ailleurs. Vous voyez qu'eux-mêmes, ils sont victimes. Hein.
Merci à vous, cher Manon Laporte. Voilà.
Merci
L'Empire invisible au cœur des mécanismes de l'islam radical aux éditions Hors cadre. Passez une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Allez, salut, ciao.
Vous venez d'entendre Les Controverses, dirigées par Mike Borowski, diffusées en direct sur Radio Courtoisie samedi 25 avril 2026 de 10h30 à midi et réalisées par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.